Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Chers auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service, candidat finaliste et comment bien passer la dissertation, bien on en parle dans cette deuxième partie d'Okapi Service avec l'abbé Marcus Bidungwa, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Vous le savez, tout est presque prêt pour les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2021-2022 qui doit débuter le lundi 12 juillet prochain avec la dissertation française. Si vous êtes intéressé à ce sujet, vous êtes candidat finaliste, vous voulez réagir, le numéro d'appel c'est le 081-890-6394 ou 09-706-6394. William Lungambe, toujours bel et bien à la technique. Tatima Pouk aussi réalise et coordonne ce magazine présenté par Marcel Gomombala sous la supervision de Jean-Marc Matouak.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Tout est presque prêt pour les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2021-2022 qui doivent débuter le lundi 12 juillet prochain avec la dissertation française. Déclaration du professeur Tony Mwamba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, au terme d'une visite à l'inspection générale où sont élaborés, imprimés, emballés les items destinés à ces épreuves. Et selon l'inspecteur général de l'EPST, l'étape en cours est celle de la mise en malle. Dans les mâles des items qui doivent parvenir à tous les centres plus tard le 25 juin au niveau des écoles. Les candidats finalistes sont en train de se préparer pour bien passer les examens préliminaires de l'examen d'État. Comment bien rédiger la dissertation? Quelles sont les étapes importantes à respecter dans la rédaction d'une dissertation? Abbé Marcus Bidungwa, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale, et notre invité est déjà en ligne. Monsieur l'abbé Marcus Bidungwa, bonjour.
Bonjour, monsieur Momo.
Ça fait un plaisir de vous retrouver, monsieur l'abbé Marcus Bidungwa, après autant d'années. C'est vraiment un réel plaisir pour aborder ces sujets sur les candidats finalistes et comment bien passer la dissertation. C'est une épreuve qui n'est pas toujours aussi facile que ça. Alors, on va découvrir les étapes pour bien passer la dissertation. Je rappelle le numéro des contacts. C'est vraiment pour les candidats finalistes. S'il y en a certains à ce moment qui sont en train de nous suivre, n'hésitez pas à en profiter pour poser vos questions en appelant au 081-890-6394 ou encore au 09-706-6394. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net. Alors, avant de savoir comment bien passer une dissertation, dites-nous, monsieur l'abbé Marcus Bidungwa, c'est quoi une dissertation?
Bon, oui, merci. Je pensais moi-même aussi déjà commencer par là avant de passer au niveau des étapes. Oui. Allons vers l'apaisement parce que j'ai l'impression que l'exercice, la dissertation telle que c'est abordée ici chez nous au Congo, c'est presque comme un casse-tête de toutes les matières du cours de français donné aux humanités. Alors, je vais plutôt essayer de simplifier. Je crois que la dissertation, il faut l'approcher simplement comme tout exercice de composition, c'est-à-dire des rédactions. Seulement, à la différence d'autres rédactions qui sont peut-être un peu plus simples, comme une narration. On vous demande de raconter vos vacances. Eh bien, vous avez déjà de la matière. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous faites qu'être écrit. Donc, alors que les autres rédactions sont ou compositions sont descriptives. La dissertation n'est pas descriptive. La dissertation, elle est plutôt démonstrative, argumentative. Je n'ai rien à décrire, mais j'ai une thèse, une idée que je dois chercher à démontrer, la rendre plus claire et acceptable en lui ajoutant des arguments, donc des idées secondaires qui viennent pour l'appuyer et pour attester que c'est que cette idée-là, cette thèse-là est vraiment valable. Voilà un peu c'est quoi l'exercice de la dissertation. Et donc, il faut chercher au niveau de votre mental, réfléchir pour puiser les informations nécessaires, ces différents arguments pour asseoir cette dissertation. Généralement, tel que ça se fait ici, puisqu'il s'agit de l'examen d'État, hein, il y a des sujets qui sont proposés et parmi ces sujets, les élèves choisissent les sujets les plus abordables et se mettent à les développer, ces développements à des étapes qu'on va peut-être essayer de développer dans la suite. Voilà ce que je peux dire. La dissertation, c'est simplement une composition, une rédaction, mais qui n'est pas descriptive, qui est plutôt argumentative et démonstrative. Voilà la petite définition.
Voilà, ça c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est déjà très 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 important pour les candidats finalistes de les savoir, parce que bien souvent il y a aussi un autre problème, Monsieur l'abbé Bidungwa, c'est par rapport au choix des sujets. Est-ce que parce que avant de parler de comment rédiger une dissertation, si on peut aussi parler du choix des sujets, parce que c'est à partir du choix d'un sujet qu'on peut bien se dire qu'on peut avoir tout ce qu'il faut pour démontrer, pour argumenter.
Oui, ok, d'accord. C'est déjà la première étape que vous êtes en train d'expliquer là. Le travail de rédaction commence par les sujets. Il faut avoir un sujet et avoir clair à l'esprit ce qu'on veut. De quoi parlent ces sujets-là? Alors, pour choisir entre les sujets qui sont là, je crois qu'il faut parcourir les différents intitulés qui sont là, utiliser les vocabulaires, parce que au moins devant, disons, dans ce contexte d'examen d'État, tu n'as pas un dictionnaire devant toi, tu es tout seul. Réalisme oblige, tu prends les différents sujets, rien qu'à voir les vocabulaires, les mots qui sont utilisés, eh bien, tu vas essayer les sujets qui ont des termes qui sont un peu plus compliqués pour toi, que tu ne comprends pas tout de suite parce que tu n'as ni un dictionnaire, tu ne peux pas parler à quelqu'un pour qu'il t'explique. Va vers les sujets dont tu comprends un peu plus facilement les énoncés dans les mots qui sont contenus dans ces énoncés-là. Ça, c'est de un. Et de deux, essaye de chercher parmi ces énoncés là où il y a
s'il vous plaît, monsieur l'abbé, je sais pas, il y a un drôle de bruit là, je sais pas si vous pouvez vous déplacer un peu ou bien vous êtes, je sais pas, en mode, vous êtes, comment on appelle ça encore, ça dit que vous avez laissé le haut-parleur du téléphone ou bien comment?
J'ai des écouteurs.
Ah justement, si vous voulez bien peut-être enlever les écouteurs, hein, parce que ça fait un drôle de bruit et puis les candidats finalistes ne sauront pas bien vous suivre, alors que c'est intéressant qu'ils puissent bien comprendre tout ce que vous êtes en train de leur dire pour arriver à bien passer les points de dissertation. Et là, vous étiez en train de parler du choix des sujets.
Oui. Dès que vous avez éliminé les sujets qui vous semblent difficiles,
oui,
ben regardez parmi les sujets qui vous restent, dans lequel vous avez plus d'informations. Parce que vous n'allez pas chercher des informations ailleurs. Sinon, rien qu'avec votre tête, vous n'allez utiliser que comme technique de collecte d'informations. Les brainstorming, donc la perte de cerveau. Il n'y a que votre propre cerveau, votre culture. Cherchez le sujet pour lequel votre culture vous offre le plus d'informations. Et c'est entre ces sujets qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ce sont ces deux conseils que je peux donner comme consigne aux élèves pour les aider à choisir les sujets qu'ils peuvent aborder beaucoup plus facilement.
Alors, aussitôt qu'on a fait le choix du sujet, on est prêt, mais non à comment dire, à argumenter à les sujets. C'est comment on va s'y prendre? Ça sera quoi la première étape?
Bien. Toujours, déjà, dans la compréhension du sujet, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Vous avez l'essence des mots. Est-ce que les mots sont pris dans un sens propre ou dans un sens figuré? Il faut bien faire très attention. Si j'utilise, par exemple, un énoncé comme « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va. »
Oui. Vous
voyez, donc il faut savoir, dans cet énoncé-là, quels sont les mots qui sont pris dans le sens propre, quels sont les mots qui sont pris au sens figuré. On comprend tout de suite que, bon, un vieillard, c'est un vieillard, c'est le sens propre. Une bibliothèque, c'est une bibliothèque au sens propre, mais le lien est un peu au sens figuré parce que une bibliothèque ne peut pas s'en aller comme ça. Là, donc, ça signifie que quand les vieux ont tellement d'informations, des ressources en eux, malheureusement, dans un système d'une pédagogie qui n'a pas encore assez mis de démocratie là-dedans pour que les connaissances des vieux puissent être communiquées abondamment aux gens. Et les vieux ont toujours tendance à vouloir garder certaines informations pour eux-mêmes. Bien, dans cette mauvaise stratégie pédagogique-là, évidemment, ils s'en vont avec beaucoup de connaissances qu'ils auraient dû laisser auprès des jeunes. Donc, si vous comprenez déjà un tel énoncé, eh bien, dans la suite, vous savez prendre position et comment développer. Donc, dès que vous avez compris votre énoncé, alors l'étape qui vient par la suite, c'est naturellement la collecte de ces informations. Cette tempête de cerveau, c'est brainstorming en termes techniques pour essayer de coucher par écrit les différentes idées qui vous servent d'information pour prendre position vis-à-vis d'un tel énoncé où on vous laisse libre, c'est-à-dire vous devez un peu essayer de discuter, donner les avis qui sont qui peuvent soutenir ces faits-là, que bon, nos vieillards sont vraiment des bibliothèques. Et puis, un autre avis qui pourrait essayer de reprocher cette pédagogie. Alors, vous allez dans la première partie pour chercher quelles sont les informations qui attestent effectivement qu'un vieillard africain, c'est une bibliothèque. Vous donnez ces informations et après, vous pouvez passer de l'autre côté pour essayer d'apprécier cette pédagogie dans ses limites et quelles sont ces différentes limites. Vous les évoquez. Donc, la deuxième étape, c'est la collecte des informations, des idées. Et quand vous avez mis les idées ensemble, il faut tâcher de les mettre en ordre. Je conseille vraiment aux élèves de ne pas courir trop directement vers la composition de texte, de passer du temps à coucher par écrit les différentes idées, même si pas sous forme de longues phrases, mais simplement sous forme de bouts de phrases qui donnent des idées. Et comme ça, ils peuvent savoir par rapport au sujet que j'ai donné là, que du premier côté, j'ai 3 arguments. Du second côté, je sais pas, moi, j'ai 5 arguments. Et les 3 arguments, je les agence comment? Je commence par quel argument? Donc là, je suis en train de passer à l'autre étape. Quand vous avez récolté les idées, il faut ordonner ces idées. Dire parmi ces idées-là, quelles sont, quelle est l'idée que je veux mettre en premier et pour quelle raison, tu dois le savoir toi-même mentalement. Je commence par ceci, je passe par telle autre, je passe par telle idée. Et puis de l'autre côté, comment je vais classer les 5 idées que j'ai eues. Alors quand vous avez dressé votre plan de cette façon-là, alors ça vous devient un peu plus facile la rédaction. Parce que la rédaction qui est l'étape qui vient, la composition des phrases, ben, n'est rien d'autre que la mise en forme de ce plan-là que vous avez déjà bien réalisé et vous le voyez vous-même comment les choses se font.
Alors, quand vous dites que après la collecte des idées, on les met dans l'ordre et puis enfin on les met dans l'ordre et puis on essaie de voir comment, vous avez dit d'ordonner ses idées, mais alors il y a aussi cette grande question, monsieur l'abbé Bidungwa, c'est comment on peut se dire qu'on est vraiment dans les bons, c'est-à-dire on a bien compris les sujets?
Ben, un sujet a un énoncé.
Oui.
Et puis a une question. La question vous donne la direction, et dans la dissertation, il y a les deux directions principales. Oui. D'un côté, on vous demande simplement d'expliquer, d'expliciter des verbes qui vont dans ce sens-là. Vous ne faites que appuyer cette idée-là. Mais quand on vous donne l'autre direction, c'est la discussion. Que pensez-vous de ceci, de cela? Ou bien quand on n'a rien dit, donc vous entrez dans le contexte de la discussion, mais en ce moment-là, rien que le respect de l'orientation qui est donnée, vous permet de vous rassurer que vous êtes dans la bonne direction. Mais souvent, c'est quand il y a des sujets au sens figuré qu'il faut essayer de bien comprendre pour dégager un sens propre, ben c'est là justement qu'on peut se tromper.
Voilà, on revient à vous, monsieur l'abbé Bidungwa, parce que le standard est ouvert, il a déjà 2 auditeurs en ligne, il y a Maître Mopil qui nous appelle depuis Guémena, et également Boumediene qui est à Lubumbashi. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix et vous êtes intéressé par ce magazine Okapi Service. Nous parlons du candidat finaliste et comment bien passer la dissertation. Vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94 ou 099 716 63 94.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Maître Mopila nous appelle de Guémena. Bonjour Maître Mopila.
Bonjour aujourd'hui, bonjour pour ceux qui sont au plateau. Aussi je dis bonjour à tous les finalistes de la province de Bangui. Parce que mon enfant aussi présentera cette dissertation cette année, mon fils est né. Alors, au fait, le professeur presque a tout dit, il suffit que les élèves puissent prendre ses conseils, en considération. Mais néanmoins, ce que moi j'ai compris, ce qui fait, les élèves à ne pas bien répondre à la dissertation et à bien écrire, ce sont des paniques, ils sont surtout devant le stress. Et ces stress-là sont déjà inutiles. Parce que si je me souviens, on nous a tout appris à l'école primaire et aux humanités. Hein, par exemple, l'écriture française, l'écriture française, et aussi, non seulement ça, le vocabulaire. Mais je prends le cas de l'écriture française. Quand on vous dit, par exemple, souligner les mots difficiles, par exemple, dans une phrase. Et les professeurs nous ont tout appris ça. Et aussi, quand ils sont devant un sujet, par exemple, au lieu d'abord de comprendre le sujet par rapport aux exemples que le professeur a donné, ils se mettent, je sais pas à quoi, à déraisonner, et ils ne savent pas quoi faire. Un élève doit comprendre comment il faut d'abord commencer à introduire le sujet, à développer et à bien conclure avec facilité et avec des français faciles. Mais eux, on ne sait pas s'ils ont reçu une bonne formation à l'école primaire, une bonne formation, surtout au deuxième année secondaire. Donc, et que on a pris les concordances du temps. Ils vont bien travailler leur dissertation. Ils doivent d'abord éviter les paniques, ils doivent avoir confiance en soi et aussi éviter surtout de comprendre à travers par rapport au sujet. Par exemple, c'est la question que je vais demander au professeur. On peut dire le fait brille si fort, si chacun apporte un morceau de bois, on dit à discerner. Qu'est-ce que l'élève peut dire par rapport à ça? Ou bien on dit à commenter. Qu'est-ce que l'élève peut dire par rapport à ça? C'est la question que je vais poser à l'élève.
Maître, vous avez dit le feu brûle si fort si chacun...
Si chacun apporte un morceau de bois. Maintenant, à la fin, la personne qui a composé l'examen, il dit question à discerner. Il peut conclure, dire que non, question à commenter. Comment l'élève peut répondre à ça? Il y a déjà des questions.
Merci, Maître Mopila, d'avoir appelé de Guimena. Lubumbashi, Boumediene est en ligne. Bonjour, Boumediene.
Bonjour. Et à l'invité, monsieur Labbé, je lui dis aussi bonjour.
On vous écoute.
Je pense bien que dans tout ce qu'il a développé, notre invité a raison. Mais le problème se pose au niveau de là où nous avons commencé notre étude. Actuellement, nous, les anciens, on avait une formation, puisqu'on a commencé par la rédaction française à l'école primaire. Mais actuellement, il n'y en a pas. Les promoteurs qui sont venus chercher l'argent. Et les enseignants, les professeurs qui enseignent n'ont jamais fait l'ISP, puisque pour enseigner, il faut avoir fait l'ISP. Vous êtes un pédagogue bien formé. Mais actuellement, on ramasse un ami, un frère, on donne puisqu'il parle français. Le français, c'est autre chose, mais la rédaction, c'est autre chose aussi. Puisque pour comprendre un mot, il faut comprendre dans le sens propre, le sens figuré. Si vous prenez la RFI, souvent après les informations, on vous dit le mot de l'actualité. Le mot de l'actualité, ça veut dire quoi? On vous donne l'origine du mot, le sens propre, le sens figuré. Mais nous, au Congo, pas au Congo, en Afrique en général, depuis que les écoles privées sont venues, il n'y a que l'argent qui prime, pas les cours. En réalité, les enfants vont à l'école, mais en vérité, les enfants n'étudient pas. Et vous allez voir, après ces sessions ici, tous les promoteurs vont monter les avions pour aller à Kinshasa. Faire quoi? Si les enfants avaient bien étudié. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'autorité de l'enseignement, qui a tous les services qui de l'État. Si un promoteur se déplace vers Kinshasa, après les examens d'État, qu'il soit interpellé. Nous devons éduquer nos enfants, élever nos enfants dans les normes, dans les principes. Même si l'enfant est échoué, ça lui donne du courage. C'est le parent qui doit encourager l'enfant à étudier. Pas quand l'enfant échoue, on traite, l'enfant monte de promotion. Qu'est-ce que nous allons enseigner? C'est ça ma petite contribution pour aujourd'hui.
Merci, Boumediene, d'avoir appelé de Lubumbashi. On revient à notre invité, Abbé Marcus Bidungwa. Vous avez suivi Maître Mopila, qui lui a évoqué, souvent, il y a des candidats finalistes qui paniquent devant les sujets. Ils ont d'abord un problème pour faire un choix, et puis ensuite, ils n'ont pas confiance en eux. Alors, elle a également posé, elle a cherché à savoir comment vous, en tant que spécialiste, vous pouvez aider un étudiant à comprendre lorsqu'on lui propose cette phrase, le feu brûle aussi fort lorsque chacun de nous y apporte son morceau de bois. On dit à discuter ou à discerner ou à commenter. Et comment doit se comporter un candidat finaliste devant un tel aspect?
Le feu brûle si fort si chacun apporte
son morceau de bois.
Un morceau de bois, oui. Ah, ok. D'accord, c'est le titre que je n'avais pas...
Oui, et on dit ensuite à discerner ou à commenter.
Bon. Par rapport au stress, la panique, je crois qu'il a raison. Mais l'autre problème, non pas du côté psychologique, mais du côté vraiment de la maîtrise de la matière, mon expérience, plus que j'ai aussi travaillé au niveau des écoles secondaires, j'ai à ce moment-là dirigé des maquis des élèves qui se préparaient à l'examen d'État. La veille de
des épreuves de dissertation. J'ai eu à préparer des finalistes et j'ai été surpris qu'après avoir redonné les enseignements, l'après-midi de ce dimanche-là, avant l'examen de lundi, un me pose la question, c'était parmi les brillants, il dit, mais monsieur Abbé, on comprend le sujet. Hein, souvent, on n'a pas trop de problèmes pour comprendre le sujet, mais c'est le texte. Comment on va commencer? J'ai l'impression que ce problème du début, et de temps en temps, on a aussi le problème au niveau de la chute, donc au niveau de la conclusion. Introduction et conclusion, je crois que de ce côté-là, les élèves peuvent simplement savoir que l'introduction a un plan qu'il faut respecter, tout comme la conclusion également. Souvent, au niveau du développement, ils peuvent se débrouiller très bien malades. À l'introduction et la conclusion, je constate qu'ils ont beaucoup de problèmes. Alors, pour l'introduction, que les élèves sachent, par exemple, que chaque introduction a classiquement trois parties. Une première partie, c'est le préambule, donc une entrée en la matière. Souvent, c'est une affirmation qui a partie liée avec la dissertation, le thème de la dissertation, mais qui n'explique pas le sujet que vous abordez. Alors, deuxièmement, vous avez l'objet. Alors, c'est à ce niveau-là, donc la matière de quoi vous allez parler tout au long de cette dissertation, c'est là que vous énoncez. Il est conseillé d'énoncer assez clairement l'intitulé de votre sujet et en même temps sa reformulation, la façon dont vous avez compris ces sujets-là. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie de l'introduction, c'est le plan de développement. Comment vous allez développer? Quelles sont les étapes?
Excusez-moi, monsieur l'abbé, quand vous parlez de la reformulation, ça dit que vous essayez vous-même de créer l'énoncé autrement.
Oui, parce que vous pouvez avoir affaire à un énoncé qui est au sens figuré, et vous devez, traduire cela dans votre compréhension, dans un sens propre.
Oui.
Voilà. Donc, vous mettez et l'énoncé ancien et la reformulation pour faire plus clair. C'est ça l'objet, parce que votre travail consiste justement à expliquer ces sujets-là. Et puis, bon, voilà quoi, vous avez votre plan pour savoir vous allez dans quelle partie. Donc, ils tiennent compte de ces éléments-là pour ne pas se poser trop de questions, parce que les idées souvent sont là, le développement est là. Le seul problème au développement, c'est le désordre dans la présentation des idées. J'ai déjà parlé de l'ordre à ce niveau-là, mais au niveau de l'introduction, eh bien, voici les trois parties.
Voilà. Mais justement, par rapport à ce qu'a proposé Maître Mopi là, avec cette citation, le feu brûle aussi fort lorsque chacun porte son morceau de bois. Et c'est quoi la différence lorsqu'on dit à disserter ou à commenter?
Je crois que si on dit à disserter, la dissertation est essentiellement un effort d'argumentation. Donc là, vous prenez un peu, c'est la discussion.
Oui.
Donc, vous pesez le pour et le contre. C'est-à-dire, après avoir compris le sujet au sens figuré, mais qui peut être rendu propre. Donc, vous n'allez pas passer tout votre temps à disserter sur le feu qui brûle, ça servirait à quoi? L'idée qui est là, c'est un peu vers l'union fait la force, quoi.
Exactement, oui.
C'est un peu cela. Donc, on vous dit, dans un langage imagé de nos campagnes, on vous dit que l'union fait la force. Alors, vous discutez. Si vous pensez que c'est réel comme cela, l'union fait la force, eh bien, vous donner des arguments, des exemples, des situations concrètes qui montrent effectivement que l'union fait la force. Mais comme c'est une discussion, vous ne prenez pas tout du côté positif. Il y a des unions aussi qui peuvent être dangereuses. Vous prenez par exemple le cas de la Bible où les gens se sont entendus pour construire la tour de Babel. C'est une union, non?
Oui.
C'est une union, mais c'est une union qui est négative. Donc toutes les unions ne sont pas nécessairement positives. Donc vous pouvez soutenir largement cette idée-là qui dit que l'union fait la force, vous donnez beaucoup d'arguments, mais pour équilibrer les choses, vous pouvez dire qu'il faut quand même faire attention par rapport à ces unions, que les unions soient fondées sur des valeurs et non pas sur des antivaleurs, parce que si vous faites une union fondée sur des antivaleurs, alors à ce moment-là, ça devient une association des malfaiteurs. Et ça, c'est dangereux.
Voilà,
c'est une union dangereuse. Voilà, ouais. Donc c'est un peu ça.
Ah, monsieur Labbé, avant de revenir à la question de l'auditeur qui nous a appelé, je vous retrouve, c'est Boumediene qui a parlé plutôt d'un problème de formation, de manque du personnel qualifié dans certaines institutions, enfin dans certains établissements scolaires qui fait que vraiment les élèves sont mal formés. Prenons d'abord le temps d'écouter deux autres auditeurs et puis vous allez répondre à cette préoccupation des Boumediene. On va d'abord revenir ici à Kinshasa pour écouter Glody qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Glody.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Gaudi.
Merci pour la parole accordée. Monsieur l'invité, je pense que vous n'êtes pas à l'université, vous êtes affaire aux élèves de l'humanité. Alors, votre façon d'expliquer, vous allez un peu trop vite parce que ça va pas faire à ce que nos petits frères et nos sœurs de l'humanité puissent comprendre. Si vous pouvez donner une théorie, vous êtes un peu vraiment trop pratique. Vous pouvez être en fait théorie, vous devez commencer au début et vous évoluez lentement jusqu'à ce qu'il faut comprendre. Alors,
Glody, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose que personnellement vous n'avez pas bien saisi, personnellement, en ce qui vous concerne?
Non, ben, moi j'ai commencé à suivre l'émission depuis le début.
Oui.
L'invité, il explique très clair,
oui.
Mais le problème qui se pose, c'est que lui, la façon dont il explique, c'est comme s'il est en train d'expliquer les étudiants à l'université. Or, il est à faire avec les élèves. Donc, il doit un peu ralentir sa façon d'expliquer afin que les élèves puissent mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Sinon, il risque de beaucoup parler et en fait, peut-être ceux qui nous écoutent à partir de ce moment, particulièrement les élèves de l'humanité, ne puissent rien comprendre. C'est un peu ça ce que j'ai dit à l'université. Il peut un peu ralentir sa façon d'expliquer. Ça peut faire acheter les élèves qui nous écoutent au pays plus comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors, dans d'autres jeux, je voulais dire ceci. Vous savez, la dissertation actuellement à la République démocratique du Congo, c'est sur adré congolais un peu, parce que vous allez se rendre compte qu'il y a qui sont en sixième année, n'arrivent pas à bien faire la dissertation. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que M. l'invité peut proposer à certains établissements? Est-ce que avez-vous depuis que vous avez pu constater ce problème-là, est-ce que vous avez eu le temps d'écrire des lettres, des ouvrages pour sensibiliser la population, pour sensibiliser les élèves à ce qui concerne la dissertation ou comment? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est sérieux, c'est très clair, mais au moins, s'il n'y a pas la sensibilisation, la population congolaise va continuer toujours avec ce flou-là. Ça va. La jeunesse congolaise qui s'est volée parce que la jeunesse congolaise, c'est l'avenir de demain. Si aujourd'hui, la jeunesse est détruite, c'est une bombe de retardement qui peut exploser plus tard. Alors, ça risque de détruire notre pays. Alors, qu'est-ce que vous proposez faire en tant que chercheur d'université, en tant qu'enseignant d'université, à votre niveau, ce que vous avez pu faire? C'est un peu juste une telle question, je dis et je vous remercie.
Merci, Glody, d'avoir appelé de Kinshasa. Justin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Justin.
Bonjour, M. Marcel, c'est M. Justin depuis Fungurume. Je salue aussi notre invité, Monsieur Labbé. Uh-huh. Je voulais dire ceci, que c'est dans l'éducation, il y a beaucoup d'intrus. On prend même les médecins, on prend les juristes, on prend n'importe qui. Il ne suffit pas de parler le français pour être un professeur de la dissertation. Sinon, je crois bien que vos enfants, vous les journalistes, parlent bien le français, mais on ne peut pas les remettre la craie pour aller enseigner. C'est l'air français de parler. Il y a des méthodes et des procédés à suivre pour enseigner. Alors, je me dirige tout droit vers notre invité. Il a dit l'introduction a trois grandes parties. Moi, je ne sais pas s'il va me corriger. Moi, j'ai appris quatre grandes parties. Il y a l'introduction, il y a l'entrée en matière, la reformulation du sujet, et la définition en d'autres termes, c'est ce qui est la reformulation du sujet. Il y a le charnière, donc, et la délimitation des points à débattre. Et l'entrée en matière consiste à un simple soulagement du lecteur et lui donner le goût de vous lire du début jusqu'à la fin. Il y a la reformulation du sujet. C'est l'épreuve qu'on doit amener au lecteur que j'ai bien compris la leçon et le sujet que j'ai choisi, je l'ai bien compris. Et je dois délimiter, que je dois débattre ici à cela et enfin à ceci. Et on ne peut pas quitter sans toutefois nous dire ou soit nous donner le goût de la suite des parties. C'est ce que j'ai appelé des formules charnières. Donc on doit promettre que pour continuer la lecture, c'est à l'étape suivante que nous allons éclairer l'opinion publique. Un lecteur, là, ne peut pas s'arrêter là. Il cherchera à tout prix à comprendre ce qui se passe. Mais ce que nous décrions, ça c'est notre invité, il va me corriger, c'est trois ou deux parties. Et même les minutes, les lignes, si on peut les limiter, l'introduction à 15 lignes, plus ou moins 15 lignes, le développement, plus ou moins 60 lignes, la conclusion, plus ou moins 15 lignes pour une rédaction qui se respecte. Mais ce que nous décrions, monsieur le journaliste et avec notre invité, les intrus n'arrivent pas à respecter bien les concours. Parce que si on arrivait même à brandir après les épreuves, il y a les réseaux sociaux, on prend quelques copies. Même les inspecteurs ont des Android. On nous tire quelques rédactions des élèves, on lance dans les réseaux sociaux. On pourra peut-être amener des corrections telles qu'à la radio Capi. Il y a des finalistes qui sont en train de nous suivre et on amène quelques apports. Parce que ce qu'on a rédigé, ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un peut développer de sa manière et ça passe au bénéfice de tout le monde. Je me rappelle d'un professeur qui m'avait même donné la dissertation. Il a terminé à l'USP. Il avait défendu sur la correction de Maurice Grévis. Voilà. Maurice Grévis avait dit qu'il y a 9 mots de discours, mais lui a dit que c'est 8 mots de discours. Voilà. Il avait écrit de son temps, mais il y a un peu des innovations. Il lui a apporté correction. Ainsi de suite, même nous pouvons les faire. Si on n'a pas rédigé, c'est pas pour dire que nous ne sommes pas intelligents. On peut avoir l'intelligence d'apporter quelque chose, mais on n'a pas de moyens. C'est ainsi, je vais terminer à souhaiter bonne chance à tous les finalistes et bonne chance de la réussite à nos promoteurs, puisqu'ils cherchent à tout prix que leur institution gagne quelques élèves. Il faut réussir, oui. On les souhaite aussi bonne chance. Ce n'est pas mauvais, nos enfants, quand ils auront des diplômes. Et je termine à remercier le curé, son confrère, M. Labelle-Ande, qui avait Kazem Douabité, qui est actuellement le curé à Kamina, qui m'avait aidé à bien comprendre aussi ses cours. Les abbés se distinguent bien dans la langue française. Donc nous devons les soutenir et nous devons les mettre dans des institutions pour enseigner. Voilà tout ce que j'avais à vous dire et partager avec nos finalistes.
Merci Justin d'avoir appelé de Fungurume. On revient à notre invité, Monsieur l'abbé Marcus Bidungwa. Alors, il avait d'abord cette préoccupation, je l'avais dit, des Boumedienne, et qui a parlé du problème lié au personnel enseignant. Et en tout cas, il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas qualifiés. C'est ce qui fait qu'il y a un peu, il y a des élèves qui ont des problèmes pour bien passer une dissertation et d'autres matières liées à l'enseignement. Et Justin était également revenu par rapport à ça. Et vous avez également suivi Glody, qui a demandé à, je sais pas, mais il a estimé que ce que vous dites, c'est très très bien, mais il faut un peu essayer tout à fait de le dire en songeant que vous parlez à des élèves donc qui sont pas à l'université mais qui sont au secondaire, je sais pas comment vous allez revenir rapidement. Et puis il y a également Glody qui a demandé si vous avez des ouvrages pour aider les élèves à mieux comprendre comment faire une dissertation. Et également Justin qui a parlé de quatre parties de l'introduction alors que vous avez parlé de trois. Oui, allez-y.
Bon, on va aller en groupe d'abord en ordre. D'abord le problème de difficulté au niveau de l'enseignement de la dissertation. Ben moi je l'ai remarqué aussi. Il y a quelques années j'ai écrit un article là-dessus. Pourquoi la dissertation est l'exercice de français le plus difficile dans notre pays. Il y a deux causes, à mon sens. En premier lieu, vous avez le programme national lui-même qui est en difficulté, le programme de l'éducation nationale, qui ne forme pas assez nos élèves du côté de la rédaction. On saute très rapidement d'une rédaction de description vers la sixième année primaire. Au niveau secondaire, il n'y a presque rien. On saute très rapidement jusqu'à la dissertation. Sans naturellement montrer des différences que j'étais en train de montrer tout à l'heure là, qu'il y a entre les rédactions qui sont descriptives et les rédactions qui peuvent être argumentatives comme la dissertation. Voilà, c'est comme ça que en sixième année, donc en cinquième, sixième, on est comme surpris et ça fait problème. Ça c'est du côté du programme national. De l'autre côté, les enseignants, le cours de français souffre du côté des personnes qui assurent ces cours-là, parce que même à l'école secondaire, dans la plupart des cas, les gens qui enseignent le français sont des gens qui ont fait la section littéraire ou les philosophes. Toutes ces deux catégories sont des mauvais profs de français. Je crois qu'on devrait continuer à former des gens en français comme tels. Les philosophes ont leur... nous avons, parce que je suis philosophe, nous avons notre façon de parler qui est par moments un peu compliquée, teintée de jargon philosophique des philosophes que nous avons côtoyés. Donc ce n'est pas donné nécessairement à tout le monde. Et ceux qui font la section littéraire également, les latinistes, ils ont leurs insistances qui ne sont pas nécessairement des insistances du français. Donc je crois qu'il y a aussi ce problème-là. Donc l'État pouvait voir comment pousser les gens à faire le français. Je suis à l'UPN, au département de français. Il faut voir combien de gens sont allés là, sont en train de faire rien que le français. Il n'y en a pas. Peut-être encore la littérature, oui, la littérature française, anglaise, etc. Mais en français comme tel, français linguistique, vous n'avez pas assez de gens. Et pourtant, on doit former beaucoup de gens de ce côté-là pour que l'enseignement du français ne puisse pas trop souffrir. Voilà les deux causes. Si on va dans la préoccupation de Glody sur des propositions de livres, bon, moi j'ai un livre, j'ai écrit sur la méthodologie de la recherche. Bon, j'essaie d'aider les étudiants débutants à travailler de ce côté-là, mais j'ai aussi un livre, mon cours que je donne, qui est un cours d'initiation à la rédaction, à la composition, à l'écriture ordonnée, dans nos séminaires en propédeutique. Donc les jeunes qui viennent des humanités, avant de passer au grand séminaire, ils passent par une phase où on essaie de combler les vides qu'ils ont accumulés au niveau des études antérieures. Et ce livre-là va être intitulé « Étapes et principes de rédaction d'un texte » où je passe mon temps là-dessus. Par moments, on cherche trop à former des savants, mais moi, je m'arrange à former d'abord des gens simples en allant vers les éléments élémentaires. Hein. Comme ça, on peut monter par la suite. Donc, étapes et principes de rédaction d'un texte. Quand il faut rédiger un texte, on passe par quelles étapes et quels sont les principes à observer. Parce que souvent, quand on initie les gens à la rédaction, on leur dit d'aller lire les autres auteurs. Or, chaque auteur a son style. Il a ses particularités. Il a des endroits où il torpille les lois. Pour l'écrivain, c'est presque aussi un artiste. Donc il aime créer quelque chose qui ne vient que de lui. Alors moi j'insiste sur les classiques, étapes et principes de rédaction. Le livre viendra bientôt, je pense. Les trois parties pour Justin, il a dit quatre parties, mais j'ai l'impression que nous ne nous contredisons pas, on utilise seulement des mots différents.
Exactement, parce que nous, il a parlé de l'entrée en matière qu'il a considéré.
Qu'il appelle entrée en matière, c'est ça qu'on appelle préambule. Vous entendrez d'autres personnes appeler ça sujet annoncé.
Ouais.
L'annonce du sujet, voilà, donc c'est, ça, c'est la même chose. Ce qu'il appelle réformulation du sujet, ben, moi, c'est ce que j'ai appelé objet, et j'ai bien expliqué que là, vous énoncez les sujets que vous avez choisis, et puis vous reformulez et sa réformulation. Donc, on est dans la même chose. Et quand il parle de délimitation, moi, je parle de plan. C'est pareil. La seule chose qui diffère, le son quatrième élément, il appelle ça charnière, mais il doit faire attention, ce n'est pas tellement une partie de l'introduction, mais la charnière, c'est quoi? Une charnière, c'est au niveau de la composition de chaque partie. Quand vous terminez une partie, pour commencer l'autre, il faut que la fin de cette première partie puisse, d'une manière ou d'une autre, annoncer la partie qui suit. Ces éléments-là, qu'il y a à la fin des parties précédentes qui annoncent les parties suivantes, c'est ça qu'on appelle les charnières. Et ça, ben, je pense qu'il y en a partout. On peut appeler charnière également certaines prépositions qu'on met au début des phrases pour montrer le lien, pour coller ces phrases aux phrases précédentes. C'est tout ça qu'on appelle charnière. Donc ce n'est pas une partie comme ça de l'introduction. Les trois parties que nous avons en commun sont celles-là que on reconnaît généralement.
Et alors, il a parlé,
des lignes.
Ouais, tout à fait. 15 lignes pour l'introduction, 60 pour le développement, et puis il y a 15 pour la conclusion.
C'est une façon de parler.
Oui.
Peut-être que celui qui lui a enseigné cela, il a parlé en termes de lignes, mais c'est souvent présenté en termes de pourcentage. L'introduction, parce que la maladie, c'est que vous avez des gens qui commencent déjà à développer l'introduction, mais non. L'introduction, c'est juste globalement un résumé de ce qu'on va faire par la suite, de ce qu'on va développer. On dit en peu de mots ce qu'on va développer. C'est ça l'introduction. Et là, beaucoup de gens se mettent d'accord pour dire que l'introduction ne peut pas dépasser les 10%. C'est-à-dire que si je fais un texte de 5 pages, il faut pas que l'introduction ait toute une page. L'introduction aura, par exemple, la moitié d'une page.
Voilà. Alors,
donc, l'introduction 10%, la conclusion 10%, c'est le développement qui prend le lot, c'est 80% pratiquement de l'ensemble du texte. Donc, c'est cet équilibre-là, qu'il évoque. Et c'est très bon qu'il en parle un peu, même si, les portions peuvent, varier d'une personne ou d'une colle à une autre, mais au moins on comprend que la large partie c'est le développement, l'introduction c'est juste un peu, la conclusion également c'est juste un peu, voilà ce qu'il faut.
Voilà, on va bientôt finir avec vous, Monsieur l'abbé Bidingua. Alors, s'il faut revenir, parce qu'il a dit, vous parlez aux élèves, s'il faut les dire de manière simple, très rapidement, parce que moi j'ai retenu, vous avez parlé de la collecte de données, vous avez parlé de la mise en ordre de ces données, et vous avez également parlé de l'énoncé. Il faut bien comprendre les sens propres figurés. Alors, je ne sais pas si en termes encore plus simples, qu'est-ce que vous pouvez dire aux finalistes avant. De nous dire au revoir. Oui.
Je vous donne la synthèse.
Oui.
Les jeunes gens peuvent noter pour la définition qu'ils retiennent que la dissertation, c'est une rédaction. C'est une composition. Mais seulement que on n'est pas en train de décrire des événements. On est plutôt en train d'argumenter, de donner poids à des idées, à une thèse. Et on lui trouve des arguments pour montrer que c'est vraiment réel. Voilà ce qu'on peut retenir pour la définition. Alors, pour les étapes, la première des choses, c'est toujours le sujet. Et le sujet, comme il est donné, il faut chercher à le comprendre. Et pour comprendre le sujet, vous regardez les termes clés pour... je ne veux pas donner en dehors l'examen d'État, je suis dans le contexte seulement d'examen d'État. Vous regardez les énoncés qui sont là, on vous donne 3, 4, 5 sujets. Vous regardez dans les énoncés qui sont là, là où il y a des mots que vous, vous comprenez plus facilement. Et vous vous mettez aussi, soyez attentif au sens propre et au sens figuré. Et puis, pour choisir les sujets, faites de tout votre mieux pour choisir des sujets où vous êtes sûr que vous avez dans votre culture suffisamment d'idées pour développer cela. Sinon, vous allez être bloqué. Alors, voilà pour le sujet. Quand vous avez terminé avec la compréhension de votre sujet, le choix et la compréhension de votre sujet, vous allez dans la collecte d'informations. Devant votre papier, vous commencez à réfléchir, à fouiller votre cerveau pour dégager ces différents arguments. Et notez ces arguments, notez un peu de mots. Et quand vous les avez notés, donc vous avez les informations, n'allez pas directement en rédaction. Commencez d'abord par mettre ces idées en ordre.
Et enfin, Oui.
Et vous avez là ce qu'on appelle le plan de rédaction. Et finalement, vous pouvez passer à la composition des phrases en tenant compte des charnières, parce qu'il ne faut pas juxtaposer les idées, mais les paragraphes doivent être collés. Alors, pour la rédaction, les trois parties sont là, l'introduction, votre partie du départ. Il y en a même qui conseillent qu'on pouvait déjà commencer par le développement, quitte à mettre... l'introduction finale à la fin, mais vous pouvez commencer aussi par une introduction où vous avez les trois parties.
Voilà, ouais.
Le préambule, l'entrée à la matière.
Monsieur l'abbé, on n'a plus assez de temps, mais j'espère que vous avez dit l'essentiel de ce qu'il faut faire un peu à les élèves. J'espère qu'ils ont compris. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, monsieur l'abbé Marcus Bidungwa. Nous rappelons que vous êtes enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Merci d'avoir été de notre voir.
Okay.